Série Mania.
Sur écoute.
Sur écoute.
Amateurs d'histoire en épisode, salut, troisième jour depuis le Festival International Série Mania Lille Hauts-de-France et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC. Tous les jours un double épisode, d'un côté le festival mis sur écoute et de l'autre quatre critiques sériephiles qui se retrouvent pour commenter, décortiquer, analyser trois séries du festival. Au programme aujourd'hui, un programme 100% compétition officielle, deux anglaises et une française, trois séries bien ancrées dans le réel, du drame intimiste, une fresque internationale contemporaine et de l'investigation géopolitique. Trois mini-séries aussi, The Virtues, Eden et Chimérica. À suivre ou pas ces trois séries, pour en parler au casting de ce débat critique, Marianne Béard de l'Humanité qui nous retrouvera, Cédric Melon de Télécable Satellite Hebdo. Bonjour Cédric.
Bonjour, bonjour.
Pierre Langlais de Télérama.
Bonjour.
Perrine Kenson de Première et Trois Couleurs.
Bonjour.
Et mais qui vois-je dans les rues de Lille? Christine Masson de On aura tout vu. Bonjour Christine.
Le petit canard, bonjour, parce que je ne suis pas du tout critique de séries.
Oui, mais vous êtes sur Lille pour voir des séries et rencontrer des créateurs en vue de votre émission On aura tout vu de samedi?
Samedi prochain, exactement.
Alors ce festival de séries, ça, vous l'avez vécu comment vous qui êtes plutôt habitué au festival de cinéma?
Je suis extrêmement frustré. En fait, c'est la première fois que je vais à un festival de séries. Je suis très frustré parce que j'ai vu des bonnes séries. C'est comme si on m'interrompait un film au milieu. En fait, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment un Covid interrompu, ce festival. Non, mais c'est terrifiant parce qu'il y a une espèce de, il y a une frustration. J'étais même en colère en sortant, vraiment.
Ah oui, les critiques séries sont des champions du tantrisme, en fait.
Exactement, hein, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que va couronner le jury? Ils vont couronner des promesses de séries, parce que parfois une série est difficile au début et s'améliore après, ou c'est le contraire?
Oui, ça c'est une grande question d'ailleurs qu'on a posée le premier jour à Thomas Lilti et à Delphine de Vigan quand ils sont passés vraiment 2 minutes 20 dans l'émission. Et ils nous ont dit qu'ils pouvaient quand même voir sur certaines séries plus d'épisodes que les deux que nous voyons quand même.
Et deuxième chose, c'est l'idée de voir ça en public, parce qu'une série ça se regarde chez soi, dans son lit, dans son canapé. C'est très bizarre de voir ça sur grand écran avec des gens à côté. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de très intime, la série. Donc je suis extrêmement perturbé.
Et vous avez vu en particulier Just for Today, une série que l'on a mis en critique nous hier, et ça vous a beaucoup plu?
Ça m'a beaucoup plu parce que ça rejoint ce qu'on a appelé la nouvelle vague israélienne de cinéma. C'est exactement la même énergie. J'ai retrouvé en plus ce garçon qui avait été un des créateurs de Beauty Pool, qui est devenu In Treatment. J'ai trouvé ça remarquable. Je trouve la liberté des séries incroyable. Le premier épisode, quand même, commence par un immense flashback, ce qu'un film ne peut pas se permettre, quoi. Et sans toutefois lâcher le personnage principal qui est cette fille qu'on retrouve 2 minutes au début et 2 minutes à la fin. C'est l'énergie, c'est les thèmes abordés, c'est l'humour aussi, c'est les respirations. Et les thèmes abordés, il y a effectivement la réinsertion, la religion, la prostitution... Je suis mais fasciné par le pouvoir et l'énergie de ces Israéliens, quoi. Cette vague de séries. J'ai l'impression que c'est en continu, que ça ne s'arrête jamais, ce talent.
Vous confirmez, alors Pierre Langlais?
Oui, et ça évolue, parce que c'est vrai qu'au début, les Israéliens, on a dit, ils sont quand même très forts. Alors, il y avait effectivement une treatment qui était Beauty Pool, qui était un peu différente, mais c'était essentiellement des thrillers à arrière-plan géopolitique sur la région, etc. Et là, depuis 2-3 ans, ils sortent aussi des drames humains qui n'ont presque plus rien à voir avec la géographie, même s'il y a toujours finalement presque toujours la particularité de la région dans laquelle ça se passe qui finit par percer à un moment ou à un autre, mais ils sont capables de raconter des histoires humaines très fortes. On en parlait hier, hein, avec cette capacité à mettre des personnages en chair extrêmement vite. Moi, je pense qu'ils se rapprochent le plus, c'est des Anglais finalement, ouais. de ce mélange de social et d'intime que les Anglais savent maîtriser parfaitement. Et je trouve que les Israéliens ont réussi à récupérer ça.
Christine Masson.
Ce qui est drôle, c'est qu'on recevait Nadav Lapid, le grand cinéaste israélien, et lui, son problème, c'est de dire nous, de cinéastes israéliens, on attend quelque chose de politique, de purement israélien, dont il se dégage pour les séries justement, où on commence à rencontrer la société israélienne et pas uniquement le conflit israélo-palestinien ou des questions plus politiques.
Cédric Perrine, vous êtes d'accord?
Alors ça, je peux pas vous dire, parce que je l'ai pas vu celle-là.
D'accord. Just for Today, pas vu par Cédric.
Même médicament là.
Et globalement sur les séries israéliennes, c'est vous en tant que critique, c'est des séries que vous observez plus, vers lesquelles vous allez ou non?
Pour être très honnête, non.
D'accord.
Pourquoi?
Justement parce que c'est toujours ancré. Enfin, en tout cas, celles que j'ai vues sont souvent ancrées dans le conflit israélo-palestinien. Et à un moment donné, je trouve que c'est, ça commence à me fatiguer, en fait.
C'est plus le cas, hein, vraiment.
Non.
Bah, je vais y retourner.
C'est pas tout à fait vrai. Après, moi, j'ai eu une entrée vers la série israélienne par les remakes qui en avaient été faits, en fait. Par exemple, les remakes d'Atoufim, etc. Enfin, c'est plus par là où je suis arrivée sur la série israélienne.
Homeland et In Treatment, la version.
Ouais, exactement. Et en fait, après, c'est là où j'ai un peu plus creusé. Et justement, j'aime bien. Je vais mentionner une série dont je me souviens plus le nom, donc c'est quand même un peu pathétique. Mais c'était une série l'an dernier sur l'adoption par un homme homosexuel. Oui, c'est ça, Miguel, ouais, sur un homme homosexuel qui adoptait un enfant.
Merci, professeur Langlais. Voilà.
Ça arrive chez Canal là, dans quelques. Ça, en avril,
dans 15 jours.
Ouais,
dans
pas longtemps.
Bah,
ouais.
C'est une très jolie série parce que justement, elle n'est pas du tout sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Elle est plus sur des combats sociaux, sociétaux au sein d'Israël. En plus, il y a toute une question de la paternité, etc. Et j'aime bien qu'on s'éloigne de ça. Et encore une fois, je suis d'accord avec Christine sur le fait qu'ils arrivent à faire des beaux, très beaux personnages.
Est-ce que c'est qu'il y a un côté direct, il y a un côté direct dans la langue, hein, en hébreu. Et pareil dans la réalisation, un côté. On va tout de suite au but. C'est assez étonnant, ça, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je trouve que c'est vraiment leur spécificité.
Il y avait un Spectrum l'année dernière, qui est pour le coup une comédie dramatique sur le quotidien de personnages autistes.
C'est Friends chez les autistes.
Oui, c'est un raccourci, mais sacré concept. C'est pas une sitcom, c'est plus une single caméra, comme on dit, donc plus tournée à l'épaule, dans la rue, enfin voilà, avec un côté un peu on les suit au quotidien, et qui était d'une très grande justesse, et qui alors pour le coup. Il y avait peut-être quelques spécificités israéliennes, mais c'était avant tout une histoire humaine d'amour, de comment s'accepter, comment vivre en fait quand on est différent et tout. Et c'était une super belle série.
Ils ont de très grands acteurs aussi.
Ouais, voilà. Et puis surtout, enfin, et puis ils ont pas d'argent. On l'a pas dit. Donc les Israéliens, après les Norvégiens, les Nordiques, les Danois, les Suédois et quelques autres, nous continuent de nous donner des leçons. De série.
C'est le troisième jour de Série Mania, c'est pour ça que vous avez du mal, Pierre. Christine Noisson, je vais vous libérer dans un instant parce que vous avez rendez-vous avec Dominique Moll, mais avant de vous laisser complètement partir, j'aimerais avoir votre sentiment sur la première série que l'on va mettre en critique dans ce podcast, la série The Virtues de Shane Meadows et Jack Thorne. Tous les deux avaient déjà fait une précédente série qui s'appelait Pierre.
This is England.
This is England. Pour aller très vite, cette série, donc The Virtues, c'est l'histoire de Joseph. J'ai demandé à Cédric Melon de m'aider pour vous résumer en trois mots la série. C'est l'histoire de Joseph, déjà le prénom il est important, dans sa quête, celle d'un homme qui part sur les traces de son passé, traumatisé par une enfance difficile. Il tente de renouer avec sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 30 ans.
Bon, voilà. En tant que critique de cinéma, moi je vais vous dire, Shane Meadows, je l'ai rencontré il y a 20 ans pour un film qui s'appelait 24/7, film en noir et blanc absolument génial sur un type qui montait un club de boxe pour des enfants défavorisés, et ce type c'était Bob Hoskins, c'était Sue Thatcher, et j'ai retrouvé 20 ans plus tard exactement la même énergie et surtout la même vision politique de son pays, de ces mecs qui sont complètement défavorisés, laissés sur la route. Et ce qui est très fort, j'ai trouvé dans le premier épisode, c'est qu'au bout de quelques minutes, il nous met en scène un repas familial. Oui. On est en pleurs alors qu'on connaît à peine les protagonistes. C'est ça qui est fou.
Et filmé de telle manière qu'on a l'impression presque d'être dans un documentaire, que c'est pris sur le vif, qu'on est chez quelqu'un, enfin une famille. Les voix sont presque sous-modulées. C'est assez étonnant.
Et puis il y a un acteur absolument incroyable, c'est Stephen Graham. Alors moi je l'avais découvert dans Snatch, vous vous rappelez ce film de Guy Ritchie, il a fait une carrière fabuleuse. Je veux dire que la série, c'est lui quoi. Enfin, nous on a vu que 2 épisodes sur 4.
Il n'y en a que 4 au final.
Il n'y en a que 4.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que le prix d'interprétation masculine
bien
est
sûr,
pour lui? On
n'en
discute plus, très bien. Si vous nous écoutez, membres du jury, si vous faites autre chose que donner le prix à Stephen Graham, ça ne va pas bien se passer du tout.
Ce qui est génial dans la série, je trouve, voilà, par rapport au cinéma, c'est qu'il y a une scène de beuverie. On en a vu plein de scènes de beuverie au cinéma. Mais celle-là est interminable parce que cette soirée est interminable. Ce mec a une tristesse folle et va la noyer dans l'alcool en offrant des verres à tout le monde. Je crois que ça dure 20 minutes. Oui. Mais c'est indispensable de montrer ça. Et ça, c'est ce que la série permet.
Mais alors, est-ce que c'est pas justement trop interminable parfois?
Alors, ça peut paraître long, mais... ce côté filmé comme un documentaire, ça peut paraître, on dit où est le cinéma là-dedans, mais en fait c'est très très maîtrisé. Justement pendant la scène de beuverie, à un moment donné, il y a une seconde où il y a quelque chose qui le ramène à sa réalité, à sa tristesse, et là il capte son regard, j'ai des frissons rien que d'en parler, et l'acteur joue tellement bien, c'est tellement bien capté par la mise en scène, qu'on est de nouveau plongé dedans. Dans le deuxième épisode, il y a plein de moments comme ça, juste sur les regards.
Il y a un moment trop long, je trouve, c'est la retrouvaille avec la sœur sur le lit. Je trouve ça là, je trouve qu'ils se regardent.
On a un premier épisode qui est quand même très lent. Enfin,
mais c'est lent. De toute façon, tout est lent.
Périne Quinson.
Oui, non, on a un premier épisode qui est vraiment très... Enfin, on nous présente vraiment ce personnage incarné par Stephen Graham. Donc moi, je reviens juste sur la scène, évidemment, de Beuvrick et d'Anthologie, hein, parce que rien qu'en la regardant, j'étais saoule et j'avais des souvenirs qui remontaient un petit peu pas cool. J'avais l'impression d'être devant le clip de Smack My Bitch Up, là, de Prodigy. Enfin, il y avait un truc un peu, j'étais vraiment dedans. Mais surtout, voilà, on a cette longue... Finalement, c'est une longue exposition sur le premier épisode. Moi, ça m'a fait penser... Pour le coup, je pensais pas à Shane Meadows, justement. Je pensais pas au Shane Meadows de This Is England. Je pensais pas au Shane Meadows de Summerstown. Je pensais à un Shane Meadows, pas du tout à Shane Meadows. Je pensais à un film de Paddy Considine qui s'appelle Tyrannosaur, où il y avait Peter Mulan en rôle principal, qui était un homme qui se détruisait comme ça et qui, par une rencontre, allait d'une personne qui était tout aussi malade que lui, d'une certaine façon, allait changer, évoluer. Les deux allaient s'entraider. Et je trouve que toute ce premier épisode est plus dans cette thématique-là. On va au fond de la tristesse, on va au fond du drame, pour finalement, dans le deuxième épisode, retrouver plus le Shane Meadows qui arrive à retirer de l'humour, retirer un petit peu de légèreté dans le drame de son personnage.
On n'est pas chez Ken Loach non plus.
On n'est pas chez Ken Loach.
On n'est pas chez Ken Loach. C'est beaucoup plus lent que Ken Loach. C'est beaucoup plus approfondi. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup
plus
noir.
Aussi,
il y a un peu plus de pathos que chez Ken Loach.
Oui.
Et pas du tout d'humour pour le coup.
Justement, là, moi, je trouve que c'est très fort, c'est qu'il y a du pathos, mais que c'est jamais balourd. C'est-à-dire que il y a une forme de pudeur extraordinaire qui fait que on peut aller extrêmement loin dans des scènes. Alors c'est le talent de Stephen Graham aussi, hein, qui est capable, juste en s'asseyant sur un banc et en regardant tristement sa bouteille de mauvais vin, de nous bouleverser. C'est que moi la scène que j'ai préférée, finalement celle qui me reste, c'est une scène autour de la table quand il a retrouvé sa sœur. C'est pas un spoiler, c'est pas une série à suspense, enfin sauf peut-être pour comprendre d'où il vient, mais et il y a ce moment où en fait la sœur révèle plus ou moins ce qu'il lui a, enfin voilà, dit ce qu'il est, quoi. Et il y a ce mélange d'embarras, d'émotions, enfin il y a quelque chose, moi je trouve, d'extrêmement vrai dans tout ça. Et en fait, c'est la nuance entre je raconte une série parce que je veux émouvoir et j'ai un personnage qui est émouvant et je raconte son histoire à lui. Et là, c'est juste l'histoire de ce type. Et oui, ce type est pitoyable. Et ce type est terrible. Non, mais pitoyable au sens où on a pitié de lui, quoi. Et
j'espère que, en fait, ça monte en puissance parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui lui est arrivé. On a vraiment envie de savoir pourquoi il a été séparé de sa sœur. Et j'espère que la réponse n'est pas décevante.
Et surtout, il y a une scène incroyable. Moi, la scène qui m'a vraiment, que j'oublie pas, c'est la dernière scène de cette deuxième épisode où il retrouve un autre monstre, entre guillemets. Elle est très captivante. C'est presque c'est un climax psychologique. C'est fou de réussir ça, quand même.
C'est ça que je trouve un peu intéressant. Enfin, en même temps, je me demande comment ça va tenir sur l'ensemble des épisodes. C'est la structure. Cette structure en quatre parties, à chaque fois, où on a exactement la même chose. C'est une première partie où vraiment on est dans la mise en place et les personnages sont au courant de quelque chose. Et nous aussi, on est au courant. Tout le monde est au même niveau. On arrive dans une deuxième où il y a un élément perturbateur. C'est la beuverie. C'est la rencontre de la belle-sœur, par exemple. Puis on arrive dans une zone de déplacement où on va essayer d'évoluer. Et à la fin, une nouvelle révélation, on en apprend un peu plus sur le passé et en même temps on nous met dans une forme d'instabilité qu'on n'avait pas au départ de l'épisode. Donc c'est vrai que je me demande comment il va tenir cette structure en quatre parties et pourquoi il a voulu faire une structure comme ça aussi similaire, en tout cas sur les deux premiers épisodes.
Peut-être qu'on peut aussi expliquer à ceux qui nous écoutent le jour où la série va passer en France que c'est une série. Donc, alors que quand on la regarde au départ, moi c'est le sentiment que j'ai eu, j'avais l'impression de voir un film de cinéma indépendant anglais.
Exactement.
Or, à un moment donné, ça va basculer et ça va devenir au-delà d'un film une série. Mais, et c'est ce que Perrine raconte, c'est qu'il y a une vraie structure à épisode malgré tout qu'on explique bien aux auditeurs. Cédric Melon ?
Oui, c'est-à-dire que le premier épisode, on va dire que c'est la mise en place, le personnage, présentation de la situation, les enjeux dramatiques. Le deuxième épisode, c'est au départ on a un personnage donc qui continue son chemin comme une espèce de road movie et à la fin, effectivement, c'est un voyage vers son passé de toute façon. Donc il essaye de renouer et son passé apparemment est terrifiant. Donc c'est ça l'arc narratif pour moi, de la première saison. C'est en ça que je disais tout à l'heure, il faut absolument que la résolution soit à la hauteur.
Et on peut tomber dans le thriller ou des choses comme ça, vous
imaginez ? Mais on y est, à la fin de la saison 2, du deuxième épisode, on y est.
Il y a un vrai suspense à la fin.
Il y a une tension, il y a un malaise.
Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? L'autre le reconnaît.
Parce qu'il va rencontrer son passé. Il rencontre le personnage principal, rencontre son passé. Donc on se dit, là, il y a un nouveau départ pour le troisième épisode.
Il y a la connaissance que le spectateur a peut-être, mais ça se passe en Irlande, visiblement, on est à Belfast. Il y a quelque chose où on se dit, ah, l'Irlande, le passé, il y a eu des choses qui étaient vraiment pas nettes. Si on a vu les Magdalene Sisters, ce genre de choses, on sait que l'Irlande, potentiellement, il y a eu des trucs pas très cool avec le catholicisme et tout. Et le truc s'appelle The Virtues, c'est quand même avec un crucifix, c'est un calvaire en soi, c'est littéralement un calvaire. Et donc, on a cette idée d'un seul coup, le lien avec la religion, l'Irlande, et là, on se dit, à mon avis, cette histoire de jeunesse, elle est pas cool du tout, quoi. Ça rassure pas du tout.
D'ailleurs, les flashbacks sont assez intrigants, hein.
Ah bah oui.
Parce qu'ils sont très courts, comme s'ils étaient filmés en
DV,
super 8.
Ils sont en DV, voilà. Ouais, ouais, c'est dégueulasse.
Voilà, ils ont cradé l'image.
Bon, et merci à vous pour The Virtues. Christine, on vous libère pour aller rencontrer Dominique Moll.
Quelle chance.
Merci d'être passé à Sérimania sur écoute. Marianne va s'installer à votre place. Donc, je rappelle que The Virtues, c'est une série de Channel 4 avec quand même la musique de PJ Harvey. Il faut quand même le signaler. Et ça a une place quand même importante dans la série. Et vous savez si la série a été achetée, va passer sur une chaîne ?
Pas encore. En fait, ils vont aller au MIP TV et ils sont comme des fous. Ils espèrent la vendre.
Très bien. Série Mania sur écoute, le moment critique, à suivre ou pas. Deuxième série en compétition officielle que l'on va décortiquer ensemble. Bonjour Marianne.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Donc,
bonjour
Marianne. Cette série Eden est réalisée par Dominique Moll. Elle est créée par un conglomérat. Edouard Berger, Neil Mueller-Stoffen, Marianne Vint, avec au casting, entre autres, mais ils sont très nombreux, Sylvie Testu. Elle est présentée, cette série, comme une série européenne. Alors, on se souvient, par le passé, on a eu des séries européennes du genre Charlemagne, par exemple. Bon, voilà, qui était des choses, une sorte de gloobie-boulga européen. Là, c'est la première...
C'est la même chose.
Bon... On commence pas, Cédric, vous allez y arriver un peu plus tard. C'est une série coproduite par les pôles français et allemand d'Arte, le groupe ARD. Donc Eden aborde le thème de l'accueil des réfugiés à travers 5 trajectoires, 5 histoires. Alors, il y a une famille allemande qui accueille un réfugié, il y a un jeune migrant nigérian en cavale, il y a la vie d'une directrice française d'une société privée qui est interprétée par Sylvie Testu, un agent de sécurité grec, une famille syrienne qui demande l'asile politique. Bref, ça part sur plusieurs niveaux. C'est une mini-série en 6 épisodes. On a vu pour l'instant les 2 premiers, mais l'intégrale va passer d'ici la fin du festival, donc à Sérimania. Tout commence sur une plage grecque. Une 50aine de réfugiés qui débarquent dans un canot devant le regard des touristes mangeant tranquillement leur glace. Vous en avez pensé quoi, Marianne Béard, dernière arrivée, première qui parle?
Je suis assise juste à côté de Cédric, donc autant vous dire que je suis hyper impressionnée. Donc je demande la protection de Pierre Langlais qui est à côté de moi. Parce que moi, j'ai été très touchée. Enfin, j'ai vu le premier épisode et je suis tout de suite rentrée dedans. J'aime bien cette idée d'être à hauteur des personnages. Bon, le sujet me paraît... c'est le sujet du 21e siècle, de toute manière, la crise migratoire. Et le traiter comme ça, j'aime bien ce récit choral, j'aime bien l'idée que nos destins sont tous liés. Et je trouve que la porte d'entrée, comme ça, avec ses multiples personnages, cette espèce de portrait du monde, j'ai adhéré tout de suite. Et je sais qu'il y a une forme de lenteur, voire de mollesse, parce que j'anticipe la blague de Cédric dans 2 minutes et demie.
C'était un mauvais genou.
Oui, moi, en fait, ça me plaît, en fait, cette espèce de presque de nonchalance dans la manière dont les choses se passent, parce que c'est la vie, en fait.
Pierre Langlais ?
Oui, moi j'en ai vu un peu plus, des épisodes, 3 en l'occurrence. Je suis plutôt enthousiaste, c'est-à-dire que sur le papier, c'est vrai que c'est extrêmement casse-gueule, pour parler poliment, parce qu'il y a cette volonté d'aborder une thématique d'actualité politique, sociétale, et ça peut aller vers quelque chose de très rigide et de très explicatif, de très démonstratif. Et en l'occurrence, les personnages, pour la plupart, prennent chair assez vite, notamment grâce à leur interprétation. Moi, par exemple, le jeune Africain, je le trouve extrêmement juste, extrêmement charismatique.
Amaré,
ce gamin,
ça,
ouais, extrêmement charismatique. Alors oui, il y a des ressorts narratifs. Moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des ressorts pseudo-criminels qui rajoutent de la tension. On n'en avait pas besoin, en fait. Le drame que vivent ces personnages se suffit à lui-même et c'était pas la peine d'en rajouter des couches. Et moi je trouve que finalement tout s'articule plutôt intelligemment, tout est assez juste. Alors il y a le fils adolescent de la famille allemande qui est quand même une caricature du gamin insupportable. Alors on se doute bien qu'il va évoluer et qu'il va accepter le migrant qui est dans la famille, etc. Donc oui, évidemment, tout ça, il y a un gros sac à dos sur les épaules de cette série, mais je trouve que ça lui empêche pas de marcher d'un pas assez décidé.
Un mot, Marianne ?
Juste pour abonder dans ton sens, mais juste peut-être pour donner une piste de réflexion sur la tension artificielle. Je pense pas qu'elle le soit, parce qu'en fait il y a tout quand même un trafic d'êtres humains qui est une donnée fondamentale de la crise migratoire.
Oui, mais c'était pas indispensable de faire un certain nombre de connexions et l'accident qui clôt le premier épisode n'était pas indispensable en fait. Voilà.
Cédric Melon.
Bah, moi j'ai fait un Eden Sict. C'est-à-dire que je suis sorti moi. C'est-à-dire que je suis pas rentré dedans parce que tous les personnes, il y a la moitié des personnages sont de profonds idiots. C'est-à-dire que le fils allemand, le gardien, le douanier grec, il est stupide et les autres sont antipathiques. Donc ça, déjà, à la base...
Le petit enfant, il est antipathique ?
Non, non, bah, pas l'enfant, évidemment. Je fais un résumé, si tu veux. Et le problème, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi on fait une série comme ça, à part le sujet qui est forcément, on est tous concernés, comme tu disais, c'est bouleversant et c'est épouvantable, mais je ne comprends pas les enjeux qu'ils rajoutent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a différents types de personnages, de lignes narratives qui vont se rejoindre. À la fin du premier épisode, moi, je ne savais pas où ça allait aller, puis surtout, j'avais pas envie d'y aller. Parce que je trouve que c'est trop caricatural, je vois les choses venir de très très loin, je trouve que les réactions des personnages, enfin, la famille allemande, c'est pas possible, enfin, je veux dire, de créer des choses aussi artificielles.
Une famille pour moi qui décide d'accueillir, oui, donc, un migrant chez...
Et pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors... peut-être qu'il faut que je pousse un peu plus, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi, à la limite, il vaut mieux faire un documentaire. Je veux dire, quand tu vois dans le deuxième épisode que ça ouvre, où on a des migrants qui sont dans un taxi, qui demandent où est la Tour Eiffel, et on passe devant le périph où il y a d'autres migrants, et l'autre, il lui fait bienvenue à Paris. Je me dis, les gars, où est-ce qu'on est, quoi ? Vous y êtes jamais allés, c'est pas possible.
Perrine Kenson ?
Non, c'est vrai que la composition à étage presque de la série, où on voit la crise migratoire sous plein de prismes différents, moi de base ça m'intéresse. C'est-à-dire cette idée que d'un seul coup on n'est pas que d'un seul point de vue, ça m'intéresse. En revanche, c'est vrai que dans la structure même, parce que moi j'ai vu un épisode et demi, si on fait les comparaisons de combien d'épisodes on a vu, moi j'ai vu un épisode et demi.
Je gagne.
Oui, t'as gagné. Mais en soi, j'étais un peu perturbée parce qu'en moins de 40 minutes, j'ai eu l'impression qu'on m'avait introduit 50 personnages et donc le côté beaucoup de personnages d'un coup, c'était un peu trop succinct pour moi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, je me dis, je n'arrive à m'attacher à aucun fil narratif, à aucune personne. Je pense qu'il y a certaines histoires qui auraient pu s'accrocher au fur et à mesure, en fait, et pas forcément dès le départ, qu'on est obligé de nous présenter tout le monde à ce point-là. Et le fait de le côté très succinct de tout ça me fait que moi, ça m'a un petit peu. Oui, j'ai eu un sentiment d'exclusion, gentiment.
Marianne Béard.
Oui, je veux juste, peut-être, c'est une piste. Hein, je me dis, c'est un peu une métaphore quand même, parce qu'on on voit des gens qui meurent en bas de chez nous, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de gens désœuvrés dans Paris. On voit des gens qui meurent en arrivant sur les plages. On n'y comprend rien. Le monde n'a jamais eu autant de richesses et il n'y a jamais eu autant de gens qui meurent. Donc peut-être que cette apparente confusion, enfin moi je le ressens comme ça, je vois un autre niveau de lecture.
C'était peut-être une forme qui justifierait un fond.
serait de se dire que c'est un peu incompréhensible tout ça. Donc peut-être ces portes d'entrée qui sont pas si directes, c'est aussi une ambiance. En fait.
Cédric lève les yeux au ciel.
Non mais je lève pas les yeux au ciel, pas du tout. Je respecte complètement et on partage des points de vue. Autant mieux, des fois ils sont différents. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce qu'on apprend de plus ? Quelle est la dimension entre guillemets divertissante ? Quels sont les enjeux dramatiques autres que le sujet lui-même ? Et en ça, je me dis, mais faites un documentaire. Parce que de toute façon, vous serez moins fort que la réalité. Je pense qu'une valeur ajoutée, quand c'est scénarisé, c'est d'avoir des personnages, c'est d'avoir des enjeux, c'est de raconter quelque chose. Et en toile de fond, on a ça. Et ça, dans plein de grandes séries qui prennent des sujets extrêmement graves, on va parler tout à l'heure de
Chimérica.
Là, oui, il y a une dimension fictionnelle qui prend la réalité, qui parle d'un sujet de société et qui a une dimension fictive qui est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé la dimension fictive extraordinaire dans Eden. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie ni de compassion pour les migrants.
Pierre Langlais.
Ceci étant dit, curieusement, je suis d'accord avec toi, mais ça fait pas pour autant ça me change pas mon point de vue sur la série. Mmh. C'est-à-dire que oui, évidemment, un documentaire aurait été plus fort, mais non, potentiellement. Mais ça enlève aucune valeur à la série, en fait. C'est-à-dire que ça empêche pas de la raconter aussi comme ça, cette histoire.
Je vais préciser mon idée. C'est que je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée.
Oui, alors c'est là que deuxième partie de ma réponse, c'est que je pense que tu t'es arrêté trop vite. C'est-à-dire que c'est le principe de pas mal de séries chorales. Et je pense même que tout ne prendra vraiment sens et que cette série alors pour le coup, il y a plein de séries qu'on arrête avant la fin, mais là, il y a que 6 épisodes. Je pense qu'il faut voir son intégralité. C'est peut-être pas pour rien qu'elle est montrée comme ça ici, pour que tous ces morceaux de destin qui vont finir par se croiser, s'entremêler et tout, prennent vraiment sens. Ceci étant dit, c'est à la fois le génie de la série télé d'offrir ce genre d'histoire qui se construisent progressivement, et à la fois potentiellement aussi le risque de ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'il faut être patient et rentrer dedans et accepter éventuellement que les liens entre les différents personnages puissent paraître un petit peu artificiels.
Cédric,
je suis d'accord avec toi. J'espère que ce sera ça et je vais vraiment continuer. Mais moi, je me souviens d'un film, je pense que tu l'as vu, Perrine, c'est Babel.
Oui, oui.
Babel.
Et
Dinheritu, c'est ça ?
Oui, Dinheritu. Et en 5 minutes, le mec, il te plantait 4 destins de 4 personnes différentes qui ne vivaient pas sur le même pays et qui allaient faire se rejoindre à la fin. Mais dès le départ, il te captait tout de suite.
Mais dans la série Trafic, on avait eu ça aussi un peu, hein, la série il y a quelques années.
Oui, mais là, je n'ai pas senti ce truc qui me dit « Attention, il va se passer quelque chose, tu vas être capté. » Et c'est ça qui m'a manqué. Mais je vais continuer. Hein.
Marianne ?
Peut-être une piste à te soumettre, Cédric. Moi, je pense que l'émotion, c'est la drogue légale du 21e siècle. Donc, je pense que la fiction est supérieure au documentaire et éventuellement... la forme fictionnelle est supérieure au documentaire pour parler aux gens. Et ce petit immigrant, ce garçon africain, par exemple, c'est aussi une façon de provoquer une prise de conscience. Et un documentaire n'aurait jamais la même puissance. Je veux pas faire un parallèle avec la Shoah, mais il y a eu des documentaires qui sont définitifs, fondamentaux, hyper importants sur la Shoah, et puis il y a eu La Liste de Schindler. Je pense que ça a pas, et quelle que soit la valeur du film de La Liste de Schindler, ça a touché d'autres gens d'une autre manière, et peut-être que c'est aussi important d'aller chercher des gens sur le terrain de l'émotion. Est-ce et que... pas de la rationalité.
Je comprends ce que tu dis, je ne suis absolument pas d'accord, mais je comprends ce que tu dis.
Mais c'est ce que dit par ailleurs Dominique Moll, qui dit que pour lui l'important c'était de mettre des visages et des trajectoires de personnages qui nous évitent de mettre finalement ces archétypes que le journalisme ou le média d'information continue ne cesse de nous imposer. Donc c'était ça un petit peu aussi pourquoi l'utilisation de la fiction. Perrine Kenson.
Après, ce que je trouve intéressant justement dans la série, c'est que le personnage par exemple du petit Amaré, c'est un personnage qu'on a plus l'habitude de voir en fiction, parce qu'il y a de plus en plus de fictions qui sont faites sur la crise migratoire, et c'est normal parce que c'est un sujet très très contemporain, mais c'est vrai que d'un seul coup de le mettre sur le même plan, dans le même épisode, avec le personnage de Sylvie Testu, qui pour le coup est un image de la crise migratoire que je vois rarement, c'est-à-dire l'idée de ceux qui font du profit derrière, de ceux qui à la fois ont cette partie humaniste potentiellement, mais qui derrière en tirent de l'argent, c'est quelque chose que j'ai peu l'habitude de voir, peut-être que j'entends parler, mais j'en ai peu l'habitude de le voir. Ou pareil, la famille allemande qui va accueillir, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu, les Allemands avaient accueilli beaucoup de migrants à une période, ça crée une sorte de mini-crise politique chez eux aussi. Et donc je trouve que c'est intéressant, d'un seul coup, sur un même plan, de mettre toutes ces histoires-là et de pas les séparer dans différents ni séries, ni articles, ni ce qu'on veut, ou films d'ailleurs, et les mettre tous ensemble. Après, encore une fois, j'en suis à un épisode et demi, et moi c'était juste le côté succinct de tout le monde, qui fait que d'un seul coup, je l'ai trouvé un tout petit peu... pas stéréotypé, mais pas loin, alors que finalement, leur trajectoire en particulier m'intéresse.
Alors c'est vrai qu'au jeu à la question de qui a vu le plus d'épisodes, Pierre Langlais remporte la palme, il a vu 3 épisodes, ça va être diffusé comme ça sur Arte, les trois épisodes que vous avez vu Pierre, ce sera la première soirée. Est-ce qu'à la fin des 3 premiers épisodes, en fait la question elle est par rapport à ce que disait Cédric sur le fait que est-ce que oui je vais aller voir la suite, le problème d'une série c'est qu'à un moment donné il faut qu'on ait envie de voir la suite, est-ce qu'au bout des 3 on a envie d'aller voir les 3 prochains et pour comprendre un petit peu l'ampleur de la série?
Oui, et pour les bonnes et les mauvaises raisons. Oui, pour les bonnes raisons, parce qu'on est touché et parce qu'il y a un certain nombre des personnages, moi, à commencer par Amaré, mais aussi ce couple syrien qui emménage à Paris et qui a visiblement est en danger. Et il y a des cordes qui sont tendues derrière tout ça, qui sont les mauvaises raisons, entre guillemets, qui me donnent envie de voir la suite. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu thriller, c'est-à-dire qu'on comprend que les personnages, certains en tout cas, sont liés. Et que, il y a par exemple, voilà, un personnage est en danger et le téléspectateur un peu malin se dira, ah ouais, en fait, d'accord, la connexion elle est là. Et donc il y a ce jeu-là aussi de se dire, ok, on va essayer et qui pose cette question. Est-ce que c'est sain, entre guillemets, de s'amuser, de se divertir avec une horreur pareille et d'être tendu en se disant, ah là là, est-ce que finalement il va mourir ou est-ce qu'il va vivre? Enfin voilà, c'est toujours le problème de ce genre d'histoire-là. Mais en tout cas, moi, je suis curieux de voir où il va aller. Et je sais que les gens qui ont vu les 6 épisodes m'ont dit c'est intéressant la fin.
Et puis, bon, c'est réalisé par Dominique Moll, qui a fait quand même Harry, un ami qui vous veut du bien. On sait comment ça commence et on sait aussi comment ça termine. Perrine Kenson.
J'avoue, j'enchaînais pas du tout sur Dominique
non,
Moll.
Mais, mais c'était une information. D'accord. C'était entre parenthèses.
Mais, pour le coup, on sent un peu une tension qui est peut-être proche de Dominique Moll, mais en cas, dans le premier épisode, on la sent pas du tout. Mais non, c'était plus sur le fait qu'à quel point Arte croyait en sa série, en fait. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est coproduit par Arte et Arte France et Arte Deutschland. Et ces deux entités d'Arte qui, d'habitude, ne collaborent pas ensemble, en réalité. Et c'est pas automatique, c'est pas du tout, elles marchent pas ensemble. Et le fait que les deux parties des deux pays se décident sur une même série, qui a ce propos européen, qui a ce propos finalement humaniste et beaucoup plus général que simplement France-Allemagne. Je trouve que c'est intéressant que France-Allemagne, oui, j'ai l'impression de faire un truc de match de foot.
C'est les Allemands qui vont gagner.
N'importe quoi, champion du monde. Enfin bon, mais je trouve ça intéressant qu'en tout cas qu'il y a une politique de chaîne derrière tout ça qui me plaît bien et une vraie envie de la chaîne qui moi me donne pour le coup envie aussi de continuer.
Ça, c'est très bien. Les coulisses sont très bien.
Les coulisses sont bien.
Voilà, donc pour Eden, série donc, qui sera diffusée sur Arte à partir du 9 mai, je crois bien, enfin début mai, surveillée en deux soirées. Série présentée donc, en intégrale à la fin du festival et restée à l'écoute.
C'est 2 et 9 mai, si je puis
dire. 2 et 9 mai. Merci, Pierre Langlais. Il faut toujours avoir son Pierre Langlais à côté de soi pour vous donner des informations précises. Restez à l'écoute de ce podcast parce que Dominique Moll a répondu aux questions de Renan Cros et moi-même hier. Et que nous diffuserons ça d'ici la fin du festival. Dernière série, donc pour cet instant critique, Chimérica, une nouvelle fois une mini-série britannique, 4 épisodes de 50 minutes. En toile de fond, la campagne électorale américaine de 2016. Chimérica, donc ça explore les relations en réalité entre l'Est et l'Ouest, et plus particulièrement entre la Chine et l'Amérique, d'où Chimérica, qui est la contraction de Chine et América. Cette série, donc, c'est l'histoire au point de départ. Le point de départ, c'est ce photographe de guerre qui prend en photo l'homme de Tiananmen, celui qui défie le char sur la place Tiananmen. On le retrouve quelques années plus tard, donc en 2016, en Syrie. Là, il est journaliste, mais il travaille, il fait de belles photos, mais il y en a une qui fait la une du journal et peut-être que c'est de la fake news. Donc tout commence comme ça et ça devient donc une série sur les relations Chine-Amérique, une série sur l'Amérique de Trump et une série sur le journalisme. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé,
et
Pierre Langlais ?
Beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup.
C'est pour ça que c'est très compliqué à résumer.
C'est très compliqué. C'est marrant parce que moi, si j'avais dû la présenter, j'aurais dit c'est une forme de thriller géopolitique sur la recherche de l'homme qui s'est tenu devant le char et donc finalement c'est une sorte de travail. Hier j'avais trouvé une métaphore qui me plaisait assez. C'est comme ces trucs qu'on faisait quand on était gamin, vous avez une feuille blanche avec dans un coin un bout de photo ou un bout de tableau et vous vous amusez à dessiner le reste de l'image. Et là, c'est un peu ça. Finalement, il y a cette histoire, cette photo célébrissime. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était en couverture d'un CD de Sepultura. Voilà pour la première fois.
Chacun ses références.
Exactement. C'est Refuse Resist. Refuse Resist, le titre. Voilà. Et donc, c'est un symbole de la résistance au pouvoir. Et la pièce de théâtre dont c'est adapté par la même scénariste Lucy Kirkwood, britannique, en l'occurrence, vous précisez, c'est une série anglaise, donc c'est aussi très spécifique. La pièce se passait bien avant Trump et elle a été déplacée pour le besoin de cette série-là pendant l'élection de Trump. Et donc, évidemment, il y a un parallèle entre résistance au pouvoir d'un côté, résistance au pouvoir de l'autre, comment on résiste et aussi comment on résiste à la marche du monde globalement, à l'évolution du journalisme aussi. Et tout n'est pas si simple. C'est-à-dire que dans les premiers épisodes, on pense que finalement, on est plutôt du côté du « c'était mieux avant ». Et la scénariste m'a dit, en fait, pas tant que ça, on va comprendre qu'il y a aussi un regard plutôt optimiste sur l'évolution du journalisme. Donc, c'est extrêmement chargé, il y a beaucoup de choses, mais ça se regarde avec plaisir. Donc, pour faire court, moi, j'ai bien aimé.
Marianne Béard ?
Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, on était à la projection côte à côte et je pense que j'ai un peu compliqué votre... C'est votre sérénité.
Oui, mais c'était pour dire des choses belles, donc je vous écoutais.
C'est merveilleux, la critique, la confraternité. Oui, enfin, moi, j'y vois beaucoup plus qu'un thriller géopolitique. Pour moi, c'est une série sur la démocratie, sur la manière dont il faut toujours la défendre. Enfin, pour moi, il y a un étage bien supérieur à cette fusée. Et je pense que l'intelligence, je pense que c'est ce qui a séduit Cédric, c'est qu'effectivement, dramaturgiquement, cette photo et cette quête, ça tire la série. Mais pour moi, c'est juste un prétexte pour écrire bien plus de choses sur le monde dans lequel on vit, quoi.
Cédric Melon.
Bien sûr, mais c'est juste un prétexte, mais c'est un beau prétexte. C'est-à-dire qu'il est bien fait, il est bien foutu, il répond au code du genre, il y a une vraie mise en scène, il y a un montage que je trouve vraiment fabuleux entre les flashbacks, les moments, les différents endroits où on est. Mais pour moi, c'est une vraie réflexion sur le journalisme. C'est ça, c'est pour moi, c'est tout
les
le cœur.
C'est
oui et non, parce que les hommes du président, ils sont journalistes, ils essayent de mettre à jour un complot. Là, lui est en rédemption. Il a mal fait son boulot, il a fait une connerie.
Une,
et ça suffit à tout plomber. Ouais. Et du coup, il essaye de se rattraper. Je pense que c'est, il cherche sa place. Et dans un monde où il y a les fake news, où il y a tout ça, où on a, nous journalistes, on a tendance à vouloir aller trop vite. Des fois, on vérifie peut-être pas l'info. Ou alors lui, ça va un peu plus loin que ça. Mais et c'est très compliqué. Et je pense que ce que pour rebondir sur ce que disait Pierre. Ça va plus loin dans le sens où ça nous dit qu'on en a de plus en plus besoin, mais de journalistes qui vont faire encore plus attention. C'est parce que il y a de plus en plus de news, de plus en plus de moyens de communication que tout le monde n'est pas journaliste. Et la différence, ça va être l'intégrité, ça va être de vérifier, ça va être aussi d'être capable de prendre son temps et de regarder les choses. Et je trouve que c'est de ça dont parle la série principalement.
Perrine Kenson.
Je suis tout à fait d'accord avec Cédric. C'est pour moi cette quête du personnage sur lui-même, c'est la quête d'une profession qui est en crise totale depuis quelques années maintenant, avec la précipitation et la recherche du sensationnalisme absolu, les fameux clickbait, etc. Et y a une scène au début dans le premier épisode qui m'a complètement fascinée. C'est quand il prend cette photo, la fameuse photo qui va lui poser problème. Quand il prend cette photo, donc il y en est dans un conflit. Il y a une bombe qui tombe, il y a des gens qui sont morts, il prend la photo, et donc les gens sont dans une angoisse pas possible, hop, cut, et lui on le voit stressé à l'idée de pas réussir à envoyer ses photos à temps. Et là je me suis dit, j'aime beaucoup cette espèce de cut, de me dire, l'angoisse est pas au même endroit. L'angoisse est pas du tout au même endroit. Il y a des gens, ils sont angoissés parce que leur vie est littéralement en jeu, hein, ils vont se faire buter hein, dans la seconde, et lui son angoisse c'est parce que, oh merde, je vais être en retard pour être à la une du journal, et donc je n'aurai pas cette sensation. Et je trouve que le journalisme, la démocratie, enfin tout ce qu'on a dit depuis le début est entièrement vrai sur la série, mais en plus je trouve qu'il vient nous attaquer sur assez directement. Ils sont assez forts les Anglais pour ça, ils viennent nous attaquer directement pour dire: vous avez des priorités qui sont pas au bon endroit. Vos priorités sont complètement à l'ouest. Vous manquez d'humanité. Et j'aime beaucoup cette attaque-là, en fait.
Pierre Langlais.
Merci d'avoir dit vos priorités sont complètement à l'ouest. Ça me fait un truc pour rebondir. C'est ce que disait Eh oui. Parce que, mais c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire.
Dans
cette série,
c'est
complètement à l'ouest. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc que la série fait très intelligemment. C'est aussi de nous montrer le regard de l'est. C'est de nous passer un peu de temps avec les Chinois. Alors non seulement il y a un côté un peu comique, elle a dit, elle a vu ça sur YouTube, hein, les gars, les reportages où ils vont questionner les Chinois en disant qu'est-ce que vous pensez de Trump, et les Chinois ils disent non, on est pour Trump, il va détruire l'Amérique. et c'est très drôle, et elle a dit c'est véridique, les mecs, les gars, ils s'en foutaient, les Chinois s'en foutaient complètement des relations, ils trouvaient juste drôle que le Trump était un guignol et qu'il allait détruire l'Amérique. Et donc la série, et ça il faut le dire aussi, c'est pas que les angoisses de ce type là, c'est aussi l'histoire d'un type qui est un ami à lui, et dont on voit les souffrances personnelles. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire que j'ai vu que deux épisodes et elle en fait que quatre, je crois. C'est très court. Et déjà, en fait, j'ai un immeuble entier de thématiques et de personnages. Et on parlait d'Eden. Peut-être que c'est là que tu voulais faire la comparaison, Cédric, entre la capacité qu'a Chimérica à empiler les trucs sans que ça soit bourratif. C'est-à-dire que moi, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de Chimérica, je dis c'est un bon divertissement. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai passé un très bon moment, quoi.
Avec des très bons moments très poétiques aussi, où il y a ce Chinois qui donne des cours d'anglais sur le toit de l'immeuble et qui apprend l'anglais par une chanson de
Wham.
Voilà, de Wham, George Michael.
Il y a énormément d'humour aussi.
Il y a du George Michael, ouais.
Il y a beaucoup d'humour et je pense que c'est ce qui lui donne son humanité, en fait, à cette série. C'est qu'il y a des décrochages comme ça, poétiques et drôles.
Et tendres. Ouais. Et tendres. Cette relation, quand on a l'occasion de voir justement ce mec chinois qui enseigne l'anglais, sa relation avec sa femme, je n'en dirai pas plus, mais sa relation avec sa femme, quand on voit ça, ces inserts de tendresse, moi ça me faisait un peu plaisir, en fait, parce que d'un seul coup tout le reste est quand même lourd et nul et dégueulasse et le monde il est moche, et là en fait non, parce qu'il y a il y a encore des jolies choses.
Cédric,
moi si je devais nuancer, alors que j'aime beaucoup, tout petit peu nuancer, c'est tout ce qui concerne Trump. Je trouve que c'était pas la peine. Je pense que rien que par le sujet, parce que ce qui l'installait dès le départ, de dire voilà, j'ai trafiqué un truc pour avoir, je trouve que c'est un poil trop.
Suffisamment clair.
Ouais.
Pierre Langlais.
Non, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Perrine, l'importance du temps que prend la série. de se mettre de l'autre côté, de regarder de l'autre côté, et puis surtout, ce que disait la scénariste, il y a une question qui est posée frontalement à un moment, c'est est-ce que ce type devant le char, c'est un clown ou un héros ? Et en fait, de questionner le regard occidental vers l'Orient, comme on a élevé ce personnage, c'est une photo symbole, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire du journalisme et de la photographie, d'aller voir, ok, ceux qui étaient sur la place Tiananmen, comment ils ont vécu, et ce personnage chinois, et encore une fois, je rentrerai pas dans le détail, pour lui, c'est une histoire intime. Pour lui, c'est un truc, c'est de la chair, c'est pas du symbole. Et la série aussi questionne ça, c'est-à-dire la photo, l'analyse de l'image, ce travail qu'on a à faire. Quelle est la différence entre un symbole et une vie et la chair? Et je pense que la fiction profondément pose cette question-là, c'est-à-dire quelle différence entre et c'est là qu'effectivement une série qui ne serait que dans le symbole serait un échec, là où Chimérica nous remet dans la chair. Et ça, pour moi, c'est sa réussite.
Non, mais plus dans la chair, c'est que cette photo, qui c'est qui doit normalement t'apprendre à la décrypter, à la raconter, savoir ce qu'il y a derrière? Les journalistes.
Et l'école.
Oui, mais l'école de journalisme aussi.
Il y a cette idée, moi c'est ce qui m'a le plus intéressé, parce que je suis d'accord avec Cédric sur le fait que, enfin, pour moi, la partie Trump, j'aime bien l'idée du background avec Trump, moi ça me plaît beaucoup, mais c'est pas subtil pour un sou dans la série, et ça c'est un peu dommage. Oui, là, il s'agit avec ses gros sabots.
Ils se font jeter d'ailleurs de la conf de presse, ils font partie des journalistes.
C'est un peu sabolant, quoi, à ce niveau-là, c'est un petit peu, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça pose toujours la question du point de vue. Et en fait, en permanence, il pose toujours la question du point de vue, et l'idée que de toute façon, peu importe où on se place, qu'on soit à Tiananmen, qu'on soit ceux qui regardent la photo, qu'on soit le journaliste, qu'on soit... On est biaisé. Et comment on peut rendre compte de la totalité des points de vue pour déterminer la vérité? Je pense que... J'ai pas vu les 4 épisodes, j'en ai vu que 2. À mon avis, il y a un truc du genre... C'est impossible, mais on va faire de notre mieux. Et j'aime beaucoup cette idée-là de dire, à un moment donné, on peut pas reprocher à la presse de pas être parfaite, mais on peut pas non plus lui autoriser un manque de sérieux.
On peut pas l'autoriser à ne rien faire.
On peut pas l'autoriser à ne rien faire et pas être sérieux.
Pierre Langlais. Je me fais juste l'avocat du diable, que j'ai pas envie d'être sur cette série-là, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé, j'ai parlé des gens qui n'ont pas aimé, et qui ont posé une question intéressante, et je sais pas si j'ai la réponse immédiatement. C'est, ils ont dit, oui, mais alors je comprends pas, c'est une série qui réfléchit sur la notion de fake news et tout, et la série entière est une fake news, c'est-à-dire que ce personnage, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, cet homme du char. Et du coup, la série, finalement, son argument central et son propos, c'est d'aller à la recherche d'un type dans une histoire qui n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire, voilà.
Oui, mais bon, on est dans la fiction.
C'est le voyage qui compte.
Vous tournez pas vers moi comme si j'avais dit une connerie. C'est une question.
Mais vous avez voulu être l'avocat du diable.
Tu t'es exposé, t'as choisi. Personne t'a forcé.
C'est vrai qu'il y a des gens à qui ça posait problème. Et moi, personnellement, ça m'a pas du tout posé problème, mais il y a des gens à qui ça pose problème.
Et moi, je vais être l'avocat de l'ange, si vous acceptez la formule. Moi, pour moi, depuis le début du festival, c'est vraiment la meilleure série que j'ai vue. Et juste la meilleure série que j'ai vue, avec du coup la frustration que ce soit que 4 épisodes, parce que pour moi il y a tout de ce que pourrait être une grande série sur le journalisme, comme il y a eu Lou Grant à la fin des années 70, comme il y a eu Newsroom, même si certains ont été critiques envers cette série d'Aaron Sorkin. Je trouve que le journalisme n'a jamais été... Enfin, a été peu traité dans les séries. Or, la série, c'est parfait. Le métier de journaliste, c'est parfait pour la série. Et là, du coup, moi, de savoir qu'il va y avoir que 4 épisodes, je suis un peu triste. Tellement j'ai aimé. Perrine.
Et juste parce qu'on a porté au nu Stephen Graham sur The Virtues, à juste titre. Mais j'ai envie de dire qu'Alessandro Nivola est concurrent à Stephen Graham. Parce que je trouve que, enfin, moi, je l'aime. Déjà, j'aime bien Alessandro Nivola, c'est tout. Je trouve qu'il est capable de littéralement tout faire. Il était dans un film de Sébastien Léo il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Disobedience, où il jouait un rabbin de juif orthodoxe, et extraordinaire. Et là, d'un seul coup, il est un photojournaliste dans lequel je crois aussi. Et moi, j'aime beaucoup cet acteur, et il est peut-être moins spectaculaire que Stephen Graham, qui, pour le coup, parce qu'il incarne toute la misère du monde, et ben, je le trouve finalement, il a une subtilité, Alessandro Nivola, au-delà de son physique charmant, qui marche très bien.
Et on peut aussi citer Sherry Jones, qui est exceptionnelle dans la série, que je trouve absolument géniale, qu'on avait vu dans
Blonde. Des rôles engagés. C'est un peu sa spécialité. Et puis, il y a quand même. Voilà, alors après, il est fidèle à lui-même, mais il y a F. Murray Abraham qui est aussi quand même. Enfin, il y a un gros. On n'a pas eu le temps de parler du fait que, encore une fois, c'est une série anglaise, mais qui met en scène les États-Unis et la Chine, et du coup, il y a un pas de recul qui est pas anodin.
Et Marianne, pour terminer.
Juste peut-être faire un big up au réalisateur, parce que cette série, elle a été tournée en Bulgarie, et on se croit à New York, et c'est quand même un exploit, quoi.
Donc, Michael Kellor, le réalisateur, et Lucy Kirkwood, créatrice et scénariste de cette série, Chimérica. Donc, c'est sur Channel 4, mais aussi sur Canal+, puisque Canal a annoncé qu'ils avaient acquis les droits de diffusion en France.
France. Merci à tous les quatre d'être passés dans Sérimania sur écoute. Pour aller plus loin, donc restez sur écoute, le podcast du festival de ce lundi 25 mars à son programme. Lucie Kerkoud, justement, et Michael Keller, donc respectivement créatrice et réalisateur de Chimérica. Mais on aura aussi Irène Jacob qui nous parle de The OA. Et dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série de France Inter, il y aura a priori du gros mytho et des soupçons. La suite au prochain épisode.